Bonjour mes amis, c'est Clotilde Saye ce matin en ce lundi 28 septembre 2015. Je vous accueille sur les ondes de Canal M. On va vous tenir compagnie. Quand je dis on, ce sont les voix de service puisque c'est le titre de ce magazine. Il y a toutes sortes de monde, de beaux collaborateurs qui vont venir se joindre à moi ce matin encore pour vous lire, pour vous partager des articles, des papiers, des blogs, que des choses intéressantes à vous faire découvrir jusqu'à midi moins le quart. Ensuite, ce sera le bulletin du handicap. Ce matin, dans la première demi-heure, oh bravo, le beau E pour ouvrir ça. Je disais, pour cette première demi-heure, on parlera d'avortement à l'île du Prince-Édouard. On parlera d'une chronique, d'une catastrophe annoncée. On parle là de pêche. On évoque aussi la révolution municipale. Dans le journal de Montréal, oui ou non pour l'indépendance, mais on se branche, seigneur. De poseurs d'affiches qui ont 80 ans et plus, les deux écoles, public et le privé. Faut-il interdire les pitbulls? Ça, c'est si on a le temps. J'accueillerai aussi dans cette première demi-heure notre ami Christiane Campagna qui viendra nous présenter sa nouvelle virale. Et dans quelques secondes, je m'entretiens avec Mathieu Tessier en ce 28 septembre 2015. Alors Mathieu.
Oui Clotilde.
Le 28 septembre, en dehors de la fête de ma sœur, de ma frangine, il
se passe
quoi? Oui.
Mais c'est pas marqué dans le journal, ça?
Ben, je comprends pas. Vous savez que ma sœur...
Non.
Non, mais attendez
oui,
quand même.
Oui, je savais que vous aviez une sœur.
Oui, mais vous savez qu'elle a été la première à gagner la semaine dernière un Gémeaux dans une nouvelle catégorie.
C'est vrai?
Oui, il y a eu une nouvelle catégorie cette année qui est née, qui est la catégorie casting. Eh bien, le Gémeaux lui a été remis en compagnie de deux autres personnes avec qui elle a signé le casting de la série 19-2.
Bravo, Madame Saye.
Ben, je suis très fière de
mais
ma
oui,
sœur.
Non, mais
ça,
tout à fait.
Ça vient conclure une belle carrière parce qu'elle est en train de lâcher ça petit à petit, là, rendue à l'âge vénérable 2.
Et c'est la première fois qu'on remet un prix
c'est la
ce prix
oui, 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 le prix du casting, oui, c'est la première fois.
Est-ce que le prix porte son nom?
Oh, ben non, c'est un Gémeaux, mais en tout cas, comme elle dit, on va pouvoir maintenant accueillir les voleurs avec quelque chose de lourd. Alors, aujourd'hui, 28 septembre.
C'est la journée internationale du droit d'accès à l'information ainsi que la journée mondiale contre la rage, aujourd'hui.
OK.
Oui, il y a...
Contre la rage au volant ou la rage
toutes les rages
la rage
confondues.
Des bibites, oui, d'accord.
Toutes les rages confondues. Il n'y a pas de vaccination, malheureusement, contre la rage au volant.
Non, c'est ça.
André Breton, Louis Pasteur sont décédés un 28 septembre.
Mm-hmm.
Et sont nés Brigitte Bardot et Marcello Mastroianni.
Oui, ça, Bardot, je m'en souviens toujours parce que, évidemment, c'est le même jour que ma sœur. Je vous le disais, oui, elle, ça, oui, effectivement.
Oui,
Mastroianni, j'ignorais qu'il était du 28
et
septembre.
Miles Davis aussi est décédé en 91.
Ah, trompettiste.
Trompettiste, jazzman.
Ouais, jazzman et trompettiste préféré de Stanley Péan. Stanley Péan lui-même, trompettiste.
C'est vrai?
Oui, que je vais recevoir bientôt.
Il n'en a pas parlé?
Je vais le recevoir dans deux semaines, Stanley, à l'émission Des livres pleins les oreilles. Ne manquez pas ça. Je vous remercie beaucoup, mon petit Mathieu. On va tout de suite passer à la presse. Alors, à la une d'abord, le style Foglia. Six chroniqueurs de la presse profitent de la sortie de l'essai biographique Foglia l'insolent de Marc-François Bernier pour rendre hommage à leur célèbre collègue. Enfant né d'une mère porteuse hors Québec, bientôt les mêmes règles pour tous. Figurez-vous que plusieurs couples gays ayant eu recours à une mère porteuse à l'extérieur de la province peinent à recevoir des prestations d'assurance parentale. Alors, dans la foulée d'un jugement rendu en mai, Québec entend corriger le tir et comme j'ai décidé de faire un petit peu l'impasse là-dessus ce matin, mais entre autres, ce qu'on nous dit et ce qu'il faut retenir, c'est que les papas qui sont les véritables géniteurs, éventuellement, même si ce que je veux dire, c'est que si le papa géniteur n'est pas l'un des deux papas gays, et vous me connaissez, et ben lui, il va avoir le droit de recevoir des prestations, même si c'est pas lui qui a la garde de l'enfant. Alors voilà, justement, c'est en gros, parce que je vois Mathieu Tessier qui me regarde avec des yeux, qui dit « Ah bon, vraiment ?» Ben oui, c'est exactement de cela dont il est question dans ce dossier. Exclusif à la presse, difficile transition en vue au CHUM, à moins d'un an du déménagement. Apparemment, il y a plusieurs services qui n'ont pas encore déterminé quels soins nous seront offerts. Élections fédérales 2015, Rima El Khoury signe un papier sur Harper, les réfugiés et la sécurité. Et Michel Ouimet nous dévoile un pan des secrets de l'île du Prince-Édouard. Je vais m'arrêter là-dessus. Je sais que je peux y arriver. À 25 ans, le gardien Mike Condon cogne enfin à la porte de la LNH. Et puis, élections régionales en Catalogne, le oui a gagné. La démocratie a gagné, les partis indépendantistes remportent la majorité absolue. Le petit clin d'œil de Stéphane Laporte avant de me pencher sur un premier article de la presse. Quelle est la différence entre Drogba et le Premier ministre du Canada? Drogba, il livre la marchandise, lui. Alors, chronique de Michel Ouimet ce matin sur ce qui se cache à l'île du Prince-Édouard lorsque, par exemple, on commence à parler d'avortement. Ça s'intitule « Derrière le décor de carte postale ». Elle dit « Je suis venue pour la première fois à l'île du Prince-Édouard sur le pouce au milieu des années 70. J'avais 17 ans, âge de l'innocence. J'ai pris le traversier pour passer du continent à la petite île perdue au bout du Canada. À l'époque, le pont n'existait pas et l'île vivait détachée du reste du pays. Et, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, elle avait été séduite par l'île du Prince-Édouard, ce charme discret, le charme discret de Charlottetown, les paysages vallonnés, les maisons en bois, les églises qui se dressent au détour du chemin, les plages et les falaises de grès rouge. Elle avait planté sa tente à Cavendish, à quelques minutes de marche de la mer. Elle dit « Je ne me doutais pas que 40 ans plus tard, le village deviendrait célèbre car il abriterait le chalet du sénateur déchu Mike Duffy. À l'époque, je ne voyais que le décor de carte postale, la gentillesse des habitants et la beauté sobre et tranquille des paysages. J'ignorais que des secrets se cachaient derrière le vernis champêtre de l'île. » L'avortement. En apparence, le sujet était simple. L'île du Prince-Édouard est la seule province du Canada où il ne se pratique aucun avortement. Si une femme veut se faire avorter, elle doit aller au Nouveau-Brunswick, nous apprend Michel Ouimet, ou en Nouvelle-Écosse. Pourtant, l'avortement a été décriminalisé en 1988, lorsque la Cour suprême a donné raison à Morgan Thaler. Le Canada s'est alors mis à l'heure de l'avortement, sauf l'île du Prince-Édouard, qui a résisté et qui résiste encore. L'avortement est un sujet tabou, entouré de honte et de secrets. J'ai viré l'île du Prince-Édouard à l'envers pour trouver les témoignages de femmes qui avaient dû s'exiler ou qui s'étaient fait avorter en utilisant des méthodes moyenâgeuses, mais la réponse a été catégorique, non, pas question d'en parler. Je me suis rarement heurté à un tel mur de silence, même le lobby pro-choix répondait à mes courriers avec suspicion. Une militante colorée qui se bat depuis des années pour que les femmes aient le droit de se faire avorter dans l'île, Candace Hagen, m'a rabroué quand je lui ai dit que je voulais obtenir sa version de l'histoire, car je faisais une entrevue avec l'apôtre pro-vie Oli Pierlot. C'est votre droit d'interviewer Oli Pierlot, mais il n'y a pas de version pour un sujet impliquant des droits fondamentaux, a-t-elle répondu, et aucun médecin n'a voulu non plus me parler. Des femmes dans l'île, nous sommes en 2015, écoutez bien ça mes amis, essaient de mettre fin à leur grossesse en utilisant des méthodes archaïques qui rappellent l'époque des aiguilles à tricoter que certaines Québécoises utilisaient pour se débarrasser de leur fœtus. Ici, des femmes se jettent dans des escaliers pour avorter. Elles se saoulent ou ingurgitent un cocktail de médicaments qui provoque des crampes violentes. Au Canada, en 2015, une journaliste de Vice, ou Vice, en tout cas V-I-C-I, C-E, Vice-I peut-être, Vice, Kate McKenna, a parlé à l'une de ses femmes. En 2013, Anna a pris des médicaments prescrits par un médecin ouvert d'esprit dans le but de provoquer une fausse couche. Elle ne saignait presque pas, inquiète. Elle est retournée chez le médecin. Elle n'a vu que l'infirmière qui l'a accueillie avec une froideur scandalisée. Son test sanguin indiquait un taux d'hormones élevé, l'embryon s'accrochait. Alors elle était complètement désorientée, elle a décidé de recogner à la porte du médecin. Pendant qu'Anna pleurait, l'infirmière lui a dit qu'elle aurait bientôt ses menstruations. Elle n'a jamais vu le médecin. Elle était paniquée, anxieuse. Elle avait l'impression de se noyer. Elle était hystérique, elle tremblait. Les gens étaient indifférents. Elle se débattait depuis 2 mois avec sa grossesse indésirée. Elle se sentait seule, évidemment. et elle a fini par parler au médecin qui lui a suggéré de passer une échographie. Résultat, l'embryon ne se développait plus. Deux jours plus tard, des crampes lui ont tordu le ventre. Elle a pris un comprimé de Tylenol extra fort, puis elle a été secouée par de violentes contractions et elle a expulsé ce qui restait de l'embryon sur le plancher, seule dans sa maison au milieu d'une mare de sang. À l'île du Prince-Édouard, l'Église a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence, et nous écrit Michel Ouimet, plus de 90% de la population est chrétienne, catholique et protestant confondue. Pourquoi ne pas permettre l'avortement ici? Pourquoi obliger les femmes à traverser le pont? Ont demandé les journalistes. Le Premier ministre n'a pas vraiment répondu. Tiens, on ne parlera pas de niqab, on va parler de poisson. Voilà, ça me tente, moi, de parler de poisson. C'est la chronique d'une catastrophe annoncée. C'est un éditorial sur l'environnement signé Marc Thibaudot. Le dernier demi-siècle a été catastrophique pour les océans. C'est une situation dont on parle trop peu. C'est vrai, on en parle moins que le niqab. A priori, le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature, qui porte sur l'évolution des océans, à tout pour secouer les consciences, dit M. Thibaudot. Le directeur général de l'organisation, Marco Lambertini, prévient en préambule du document que les réserves marines sont en train d'être dévastées. Autrement dit, il faut manger du poisson, mes amis, parce que c'est bon pour la santé, mais il ne faut pas en manger trop parce qu'à cause de nous, on est en train de dévaster. Voilà. Finalement, ce serait peut-être mieux de parler de niqab. Alors, en moins de 50 ans, les populations d'espèces vertébrées comme les requins ou les tordus, oui, j'ai failli dire les tordus.
Les taureaux.
Hein?
Je pensais dire les taureaux.
Non, moi, j'allais dire les tordus ont fondu de moitié. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que les tordus se démultiplient. Mais enfin, bon, ça ne regarde que moi. La baisse est encore plus marquée pour plusieurs espèces essentielles à l'industrie de la pêche. La situation est plus claire que jamais. L'humanité, par sa mauvaise gestion, est collectivement en train de mener les océans au seuil de l'effondrement, résume M. Lambertini. Notre mode de vie épuise la Terre et nous devons impérativement agir avant de léguer une planète dévastée à nos enfants. Imaginez une planète dévastée et en plus avec 50 femmes en niqab, c'est épouvantable. Cette relative indifférence fait le jeu des tenants du statu quo et risque notamment de déboucher sur une nouvelle impasse lorsque la conférence des Nations Unies sur le climat se tiendra en décembre à Paris. Lors du dernier sommet du G7, le Premier ministre Stephen Harper s'est rallié du bout des lèvres à l'idée qu'il fallait cesser d'utiliser des énergies fossiles d'ici la fin du siècle. Une promesse à très long terme qui ne prête guère à conséquence dans l'immédiat. Les réticences de son parti à revoir en profondeur l'exploitation de ces ressources compliquent la recherche de solutions collectives à la crise. L'importance de la catastrophe environnementale annoncée devrait évidemment en faire un élément central de la campagne électorale en cours. Mais il semble que des enjeux secondaires, et là je vous jure que ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans cet éditorial, il semble que des enjeux secondaires comme celui du port du niqab sont jugés plus importants. Au public d'exiger que les élus mettent l'accent sur l'essentiel. Alors 74%, ça c'est le déclin des stocks de thon et de maquereau au cours des 40 dernières années. 19,2 kg la consommation mondiale moyenne par habitant de poisson en 2012, comparativement à 9,9 kg dans les années 60. Non, je vous le dis, hein, on va nous reprocher, on nous a tellement dit lâcher la viande, bouffer du poisson. Maintenant, on va nous dire quoi? Retourner, non, tiens, aller manger du poulet. Puis un jour, on va s'apercevoir qu'on va décimer tous les poulets. Hein, alors,
on va manger des pois chiches.
On va manger des pois chiches, puis un jour on va avoir décimé les pois chiches. En tout cas, 2 milliards, la croissance projetée de la population de la planète d'ici 2050. Voilà un joli lundi matin, plein de jolies choses dans les journaux. Je vais me tourner vers Christiane Campagnin, j'ai hâte de voir ce que le monde de la twittosphère nous réserve ce matin. Alors Christiane, bonjour.
Bonjour. Je vous avais prévu la semaine dernière, les lundis matins, je vous parle du dimanche soir. Le dimanche soir, Twitter est collé à la télé la plupart du temps. Bien qu'hier, il y avait aussi la lune.
Ah oui, c'était beau d'ailleurs ça.
Alors, oui. Concernant bon, l'éclipse, ils ont beaucoup, beaucoup de photos. Moi, je faisais des allers-retours de mon balcon,
oui,
des
moi
tâches
aussi.
Dans la maison. J'ai manqué le meilleur, pour dire. Il y a un moment donné où je suis partie trop longtemps. Ah. Puis elle avait bougé aussi, c'était ben, l'angle par rapport à mon balcon. Là. La lune était plus loin, elle était plus difficile à voir. Mais bon, Mathieu Moreau qui écrit « Pas de panique pour la lune, la nature est juste en train de changer d'ampoule.
» C'est très mignon, très mignon.
Puis la bande raide qui dit « Finalement, une éclipse lunaire en ville, ça sert à parler à ses voisins dans la rue. On se reparle en 2033. »
Ah, oh, mon Dieu, oui.
Parce que c'est la prochaine. Et Nicolas Boisvert, mais là, il a mêlé éclipse lunaire et éclipse solaire, là, mais « Fallait une boîte de souliers avec des trous. J'ai compris des souliers avec des trous. Ça fait 20 ans que je regarde les éclipses en croc.
» Elle est bonne! Elle est bonne!
Ah, ça fait du bien. Hein?
Oui, ça me fait du bien. Je vous remercie beaucoup. J'avais tellement peur que vous me parliez de NICAB. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Ben, non, on pense à... tout le monde en parle, bien entendu.
Ben oui.
Les gens sont très actifs sur Twitter. En vrac, quelqu'un qui souligne que c'est intéressant qu'on a ouvert en parlant d'une émission de TVA, donc une belle ouverture, mm-hmm. que c'était de la grande classe. Martin Forgue, ancien militaire devenu journaliste, qui dit « L'arme principale de l'État islamique, c'est la propagande. Contrer celle-ci devrait constituer l'effort principal. Mm-hmm. » Brian Miles qui dit que l'ex-bâtonnière n'est pas très convaincante. Elle a pris la bonne décision en démissionnant. Et Léa Clermont-Dion qui dit un minimum d'autocritique sera apprécié de la part de 728, des nuances. Aurélie Langto qui dit plusieurs collègues de Stéphanie Trudeau doivent ronger leurs freins en l'entendant dire qu'elle a agi comme une policière normale. Et Simon Jodoin qui dit serait trop commode et facile de faire de 728 l'instigatrice d'un problème alors qu'elle en est probablement que le résultat.
Oui, certes.
Et puis, Nicolas Tisley qui souligne que c'est vrai, il y a des gens qui étaient à plusieurs chaînes en même temps hier, là, Méta Télé, pendant que Philippe Falardeau était à Tout le monde en parle. Son film Kangourama joue à Télé-Québec et Guillaume Lepage participe à l'émission de Stéphane Rousseau à TVA. Et ben, quelques blagues aussi sur toutes les robes de mariée à l'émission Le Banquier.
Merci beaucoup, Christiane, et merci pour ce petit fou rire-là. Ça fait du bien en ce lundi matin, 28 septembre 2015. Alors, à la une du journal de Montréal, ce matin, maintenant, Béliveau, mangez moins, vivez mieux. élection en Catalogne, les indépendantistes au pouvoir, bien sûr, qu'il en sera question dans cette émission. Moins de BS que jamais au Québec. C'est le plus bas niveau en 40 ans, nous dit-on dans le journal. Et le gros titre, c'est « Crimes sexuels dans le métro ». Il y a de plus en plus de plaintes, apparemment. Alors, je commencerai ce matin avec quoi ? Oui, moi aussi, là, j'ai des photos de cette éclipse. J'espère que si vous ne pouviez la voir, si vous n'étiez pas en mesure de la voir, j'espère qu'on vous a raconté cette espèce de lune orange. Et c'est vrai que finalement, toutes les explications, je trouve, étaient super compliquées. Moi, avant-hier, vendredi, je ne comprenais rien à ce qu'allait se passer. Mais finalement, là, j'ai compris, c'est vraiment tout simple. C'est simplement qu'il y a, sur une même ligne droite, un jour de pleine lune en plus, et ça, c'est ce qui était rare, la lune, la Terre et le Soleil. Moralité, le Soleil reflétait sur la Terre et la Terre faisait de l'ombre à la Lune. That's it! Voilà, c'est tout. Mais c'était effectivement très beau. Moi aussi, je faisais les allers-retours. Un coup en avant de la maison, un coup en arrière, parce que ça bouge, cette petite affaire-là. Alors, c'était très, très beau. Catalan, patatouidange, nous dit en page 6 ce matin M. Martineau. Hein, si les Catalans ont voté massivement pour les séparatistes, enclenchant le processus qui pourrait mener à l'indépendance de cette région de l'Espagne. Pas de peut-être ni de moi. Mais un gros oui, franc et clair, en majuscule et en caractère gras. La semaine dernière, dit Martineau, j'ai fait une entrevue avec Grégory Charles pour l'émission Les Francs-Tireurs. C'est une entrevue qui sera diffusée au cours de la présente saison. Grégory lui disait à Martineau que ce qui l'agaçait le plus dans le sempiternal, le sempiternel débat constitutionnel était l'ambivalence. On ne choisit pas franchement un bord ou l'autre, on louvoie, on hésite, on tête. On est comme un gars, a dit Grégory Charles, déchiré entre sa femme et sa maîtresse. Oh, les jours pairs, on voit l'une et les jours pairs, on voit l'autre. Bizarre comme métaphore, je trouve. Vous connaissez la litote, nous demande M. Martineau. Eh bien, il s'agit d'une figure de style qui consiste à affirmer quelque chose sans l'affirmer vraiment. Alors, au lieu de dire « cette femme est belle », on dit « elle n'est pas laide. Et au lieu de dire « ce mets est savoureux », on dit « oh, il n'est pas mauvais ». Eh bien, on est comme ça, au Québec, dit Martineau. Le fédéralisme, ça pourrait être pire. L'indépendantisme, oh, c'est pas si mal. Incapable d'y aller à fond. Un pied sur le frein et l'autre sur l'accélérateur. C'est ce que je nous souhaite au Québec, qu'on fasse un choix et qu'on s'y tienne. Mais quelque chose me dit que je rêve en couleur. Choisir, c'est assumer, prendre ses responsabilités. Or, au Québec, nous préférons toujours blâmer les autres pour ce qui nous arrive. En ce qui concerne les élections fédérales, j'aime bien sortir un peu des sentiers battus. Puis le Journal de Montréal aussi, d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils nous présentent un couple. Ils sont poseurs de pancartes à 80 ans. C'est un fan fini de la politique. Lui, il est prêt à travailler pendant des heures pour installer des affiches électorales. Il pourrait profiter d'une retraite bien méritée sous le soleil de la Floride. Mais non, Fred Bilt, 80 ans, et sa femme, âgée de 78 ans, préfèrent plutôt poser des pancartes électorales pendant des heures sous un soleil accablant. Remarquez, les élections, c'est le 19 octobre, il sera encore temps de fiche le camp après, hein, quand on a la chance d'être un snowbird, ce que je ne suis pas. Alors, l'oisiveté en Floride, jamais, dit le monsieur, je suis prêt à consacrer tout mon temps à la campagne électorale, 5-6 heures par jour s'il le faut. Lance ce monsieur Bilt, Fred Bilt, ça s'écrit comme Bilt, comme une image en allemand, une dizaine de pancartes à la main à la députée sortante du NPD dans Laurier-Sainte-Marie, Hélène Laverdière. Le journal a du coup suivi cet ancien diplomate parce qu'il a été diplomate et sa femme alors qu'il s'affairait justement à poser des pancartes sur l'avenue Mont-Royal par une chaleur accablante. Rapidement, Eva Bilt se fait accoster par un passant. Encore une fois, elle soupire. « Non, c'est pas moi, Hélène Laverdière. Je suis plus grande, plus vieille, plus grosse. » « Sinon, on est des jumelles », dit-elle en riant. La septuagénaire qui ne manque, qui ne ménage pas non plus ses efforts. Quel est le secret des affiches électorales? Eh bien, le journal a tenté en vain d'obtenir auprès des partis des détails sur leurs pancartes électorales. Le Parti conservateur a carrément refusé de répondre à nos questions. Les autres partis n'ont pas voulu nous indiquer combien leur coûterait la pose de leurs affiches, ni la quantité qui serait installée au total dans les rues du Québec. Chaque candidat est responsable de décider du nombre d'affiches qu'il posera, a indiqué la porte-parole libérale Mylène Dupéré. Du côté du Bloc, on attend toujours avant d'aller de l'avant. 5 semaines d'affichage national nous apparaissent suffisantes, a précisé la porte-parole Julie Grolot. Je dois préciser que je suis arrivée quelques minutes après un accident de voiture au coin de Papineau-René-Lévesque, ici. Causé par quoi? Causé par une pancarte électorale qui avait été mise tellement bas qu'une personne qui était sur René-Lévesque et qui a voulu tourner à gauche sur Papineau n'a jamais vu une voiture arriver en face de lui et la voiture allait tout droit. Bon, ça n'a pas fait de victime ni rien, mais je ne sais pas, on pourrait peut-être leur demander qu'ils les mettent un petit peu plus haut, hein, leur pancarte.
Tout à fait.
Hein, bah, écoute...
Elle a peut-être glissé aussi.
Non, elle était vraiment installée en bas. Puis je l'ai vue, la pancarte, et moi-même, je faisais la même manœuvre. Bon, sauf que là, je voulais faire la même manœuvre, sauf qu'évidemment, c'était fermé à cause de cet accident. Et je me suis aperçu qu'il fallait carrément que je sorte la tête de la voiture à cause de la pancarte pour voir s'il arrivait du monde en face. Il faut faire attention à ça. C'est un détail, mais tu sais, s'il y avait eu mort d'homme, là, ça n'aurait pas été un détail. Journal de Montréal encore, Tania Lompré, blogueuse au journal, écrit « Les deux écoles ». Cette fin de semaine avait lieu au Collège Champlain le Forum des idées pour le Québec. Le thème de la rencontre, un système d'éducation pour le 21e siècle. Des manifestants s'y trouvaient offusqués, tandis que d'autres relayaient l'information sur les réseaux sociaux, ces rues du 21e siècle. On y dénonçait le fait que peu d'enseignants y soient invités, s'y trouvant plutôt des gens aux visées entrepreneuriales. On y écoutait des spécialistes, n'ayant pas mis les pieds dans une école publique depuis des lustres, plutôt que des enseignants présentant des méthodes de différenciation pédagogique. Les vrais spécialistes de l'éducation, ce sont les enseignants, les didacticiens ou encore les administrateurs de l'éducation, nous dit Mme Lompré. Si les spécialistes de l'éducation étaient importants, ça se saurait, leur donner un micro le moins possible. Ils seront dans la rue mercredi plutôt que d'être écoutés en congrès, puisque contrairement aux bons invités à Saint-Lambert, personne ne paiera 150 $ pour les entendre. 150 $. C'est moins que le budget annuel moyen dont dispose un enseignant québécois pour sa classe. Dans le manifeste du forum, on demande plus de marge de manœuvre pour les commissions scolaires et les écoles. C'est la recette parfaite pour créer la concurrence. Léger détail, l'éducation n'est pas une entreprise, écrit Madame Lompré. L'éducation n'a pas à s'adapter aux modes. Elle doit enseigner les savoirs essentiels, l'écriture, la lecture, la numératie et l'oral. Pourquoi l'oral n'est pratiquement pas enseigné? La lecture et l'écriture, soyons honnêtes, les écoles du Québec auraient besoin d'une année de français intensive. Malheureusement, l'anglais intensif est plus glamour, alors que plusieurs études démontrent qu'on apprend mieux une langue seconde lorsqu'on maîtrise bien la grammaire de sa langue maternelle. Idem d'ailleurs pour les allophones ayant droit au programme d'enseignement des langues d'origine afin de mieux apprendre le français. Coupe encore. Je veux que mes enfants s'instruisent à mon école. Après, ils s'en iront adorer leurs idoles, chantait Sardou dans la chanson à laquelle est emprunté mon titre. Ah, ok, les deux écoles. J'ignorais que Sardou avait une chanson qui s'appelait comme ça. Écoutant les sirènes de la mondialisation, nos dirigeants voudraient rendre nos écoles plus performantes, répondant aux besoins du marché ou de la technologie, mais ceux-ci seront vite dépassés, alors que les savoirs essentiels ne seront jamais périmés. Cette obnubilation de la performance n'a pas que de bons côtés. Peut-on laisser les élèves lire, réfléchir, avancer à leur rythme plutôt que de les rendre anxieux? Dans plusieurs secteurs, on se rend compte que la simplicité a du bon. Pourquoi pas dans nos écoles? Présentement, la performance est à l'éducation ce que le fast-food est à la nourriture. Voyez-vous, il y a une Madame Charette de Longueuil qui dit que le niqab, c'est aussi un choix de société. Il n'y aurait que quelques dizaines de femmes portant le voile intégral au Québec, donc, conclut-on, le niqab ne serait pas un véritable problème. Allons-nous attendre, dit-elle, qu'il y ait seulement quelques centaines, voire quelques milliers de femmes portant le niqab avant de se rendre compte que le sujet est important. Le niqab n'est pas juste un désolant symbole de la soumission des femmes, mais c'est aussi une entrave à la communication, c'est aussi un recul social, un choix de société inacceptable. Je suis très d'accord avec cette madame-là. Mais pour l'instant, il y a 50 niqabs et il y a une personne sur trois qui n'a pas de médecin au Québec. Et il y a plus de 1000 femmes autochtones qui ont été assassinées. Alors occupons-nous donc de nos fesses avant de nous occuper de nos voiles.
T'as pris le dessous, t'es misérable. Tu lèves les pattes comme du béton. souffle à bout, t'es plus capable. Le cœur qui trotte dans les talons. In extremis, t'as vu la faille. On n'y croit plus de toute façon. Ton coup de massue passe la muraille. T'es défini de la championne. Laqué, 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 pâche. Oh, laqué, 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 pâche. Oh, laqué. Lucky, lucky punch. Oh, lucky, lucky, lucky punch.
Bonjour mes amis, mes collaborateurs du lundi, que sont Franceline Nieuwert, que sont Serge Hamelin et Roger Roy. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Et là, je vous ai coupé votre merci. Redites-moi ce beau merci.
Merci, merci Clotilde.
Oh, bonjour. Je croirais à la petite école, c'est cute. Merci madame. Alors on se lève, le directeur va rentrer. C'est ça, Mathieu se lève comme un seul homme. Belle fin de semaine mes amis.
Ah, ben,
très agréable.
Beau.
Oh, c'est incroyable.
Ah, et puis, une brise légère.
Oh, c'est extraordinaire, vraiment. Là. Alors, rapprochez un peu votre micro, Roger. Je vous sens loin un peu de votre micro.
Avec la lune. À l'horizon.
Oui, un spectacle.
Vous avez vu ça hier soir?
Oui, oui.
Et c'était gratos.
Touché du doigt.
Ah oui, non, c'était fou. Hein, c'est vraiment. C'est... Mes amis, ce n'est pas de lune dont il sera question aujourd'hui, oui? Non, peut-être. De niqab? Non, non plus. Non, bon, non. Parfait. Alors, vous me parlez de quoi?
Par contre, du pape.
Oui, du pape. Oui.
Qui a fini son voyage aux États-Unis. Donc, je vais vous lire un article à ce propos.
D'accord.
Et puis, comme la semaine dernière, Serge a beaucoup parlé. De stress, je vais vous parler de psychothérapie.
Ouais.
Il n'y a pas d'âge pour une psychothérapie, c'est tiré du magazine Le Bel Âge.
Eh bien, ça, c'est fort intéressant. Ouais. On va prendre des notes. Roger.
Bon, alors, pour ma part, je vais vous parler de deux hommes très différents, Dédé, David Desjardins, c'est un journaliste québécois, et D.T. De qui s'agit-il? De Donald.
Trump
lui-même. C'est difficile de faire un lien entre les deux, mais en se forçant un peu, on peut en établir un très minu.
C'est vrai? C'est vrai?
Okay. Mais je vais vous parler aussi de Yvonne, l'assistant personnel. C'est assez extraordinaire.
Ah, c'est vrai?
On va parler d'un trio, d'une mère et son fils autiste, et le Yvonne, assistant personnel.
Alors là, j'ai hâte d'entendre ça parce que je suis tellement en colère contre iPhone. Ou iPhone, vous dites iPhone? Ou iPhone, iPhone? iPhone?
Je sais pas.
Bon,
iPhone. En tout cas, peu importe. Mais à chaque fois que j'ai eu un problème avec mon iPhone puis que j'ai appelé chez, vous savez, là, chez la pomme, là, à chaque fois, c'était genre, mais madame, mais qu'est-ce que vous en faites de votre iPhone? Eh bien, écoutez, cher monsieur, je le mets au lave-vaisselle une fois par semaine parce que non, mais attends, il y a un moment donné où ils nous prennent tellement. Alors j'ai hâte de vous entendre là-dessus, bon petit Serge.
Nous sommes dépassés par la technologie.
Mais absolument, mon ami.
Oui.
Qu'est-ce
alors,
que vous avez
parlé des dossiers sociaux, de la FADOC, les gens qui ont un certain âge, n'est-ce pas?
Oui.
Et c'est les 7 enjeux électoraux. Hein? Parce qu'il y a ça là qu'il y a des élections qui s'en viennent.
Oui, très
et
bien.
Et puis, je vais vous parler des enfants dans le besoin, un tour d'horizon pour ceux qui souffrent de dysphasie, déficit d'attention ou troubles du spectre de l'autisme.
Ah oui.
Oui. Il va y avoir un certain lien avec ce que je vais dire.
Ah
oui. Ah oui?
Vous m'envoyez ravi.
Oui.
Parce que, évidemment, vous ne vous étiez pas parlé.
Ah,
quoi.
Pas ben non. Non, je ne parle plus, moi.
On parle de temps en temps.
Je vous adore. Petit instru, et on commence. Hein. D'ailleurs, on va définir avec qui, finalement, on va commencer. Alors, c'est l'homme qui est à la gauche du Seigneur qui va commencer. J'ai nommé Roger Roy.
Oui, bon, alors, comment devenir gourou? Tiens, ça va bien.
Ah
c'est
bon?
David Desjardins qui signe ce texte-là dans l'actualité. Il dit « Le journalisme et les médias agonisent tandis que les tarifs pour les pigistes ne connaissent pas le concept d'inflation. »
Ah oui, non, ça, c'est sûr.
Qu'importe. Une autre carrière m'attend, bien plus lucrative, conseiller en mieux-être. Je pourrais m'y mettre dès maintenant, puisque la chose ne réclame aucune compétence. Suffit d'un peu de personnalité, il dit pour moi ça va, non? D'être plutôt beau, d'être très actif sur les réseaux sociaux, j'y passe des heures. Et enfin, d'être obsédé par le bien-être. Pour le reste, tout le monde s'en fout. Si je n'ai pas de diplôme en nutrition, la mise en marché de ma relative célébrité comblera parfaitement cette lacune. Plus ou moins bidon, mais oui. ça y a une poignée d'études plus ou moins bidon glanées sur le web. Plusieurs actrices se sont déjà lancées. Gwyneth Paltrow signe blog et bouquin où elle explique comment retrouver la beauté intérieure grâce à des soupes détoxifiantes. Apparemment, c'est bon. Au Québec, c'est la comédienne Jacinthe René qui est un peu devenue l'incarnation de ce mouvement. Moi aussi, je veux participer. Je ferai prendre des photos de moi au milieu de champs fleuris.
Vous aussi, Roger, ou... Non, là, c'est toujours Monsieur Desjardins.
C'est toujours Desjardins.
Ben, d'accord.
David de son prénom. Je ferai prendre des photos, le visage barré d'un sourire qui traduit mon infinie béatitude. On en tapissera mon site web transactionnel où se mêlent contenu aux références douteuses et produits santé signés Dédé. En vente pour votre plus grand bonheur. Avec l'air de vouloir sauver mon prochain des griffes des grandes sociétés pharmaceutiques ou du complexe industrialo-alimentaire, je proposerai dans mes livres un tas de recettes où seront bannis le gluten, les fruits possédant un trop important indice glycémique et tout ce qui n'a pas été cueilli par de blanches mains dans un jardin certifié bio, évidemment. Je donnerai aussi des conférences où je ferai part de la façon dont j'ai trouvé le bonheur dans la méditation et les jus de betterave pressés à froid. Et s'il m'arrivait de relayer sur ma page Facebook des informations erronées, je n'aurais jamais à craindre les remontrances. Mes partisans auront tout fait de mettre en doute la bonne foi de mon détracteur, s'attardant à son tour, à son ton méprisant plutôt qu'à la valeur de ses arguments. C'est bien ce qui s'est produit lorsque le blogueur et auteur Le Pharmachien est venu démonter le discours de Mme René sur les supposés dangers de la crème solaire. La science est si souvent trompée, les médecins ont tellement erré et les grandes entreprises de la santé ont si vaillamment travaillé à émousser la confiance du public qu'une part de celui-ci est prête à croire quiconque lui confirmera qu'il y a arnaque. Parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, non? Et si plutôt que de générer un doute sain envers tous ceux qui prétendent vouloir notre bien, les errances vastement documentées de ceux qui nous soignent et nous alimentent ont fait place à une confiance aveugle en de nouveaux gourous, je ne raterai pas ma chance.
Oui, parce que je voudrais rappeler le titre, parce que c'est tout prend une meilleure saveur. C'est vraiment comment devenir gourou. Moi aussi, je vais devenir gourou, oui, parce que ça, je l'avais oublié, puis je le vois sur votre...
D'autant qu'il n'y aura bientôt plus de journalistes ni de médias pour venir m'ennuyer avec ces choses détestables que sont les faits et la vérité.
Oui.
Et il y a un autre monsieur D, Donald Trump, dont on parle dans ce magazine de l'actualité du mois de 1er octobre, si je peux retrouver ma page. Et c'est Jonathan Trudel qui écrit un texte sur lui.
Regardez, on va se faire une petite pause à ce truc, comme ça vous allez la trouver très, très facilement.
Ben voilà. Bon, alors comme M. Desjardins, Donald Trump veut aussi changer de carrière. Hein, il veut une nouvelle orientation.
Oui, ben oui. On en entend parler.
C'est ça. C'est un peu fatigant de faire des investissements, vous savez, les déplacer. Là.
Ah, ben oui.
C'est ça. Alors, il a décidé qu'il allait se lancer en politique. Et le texte, je ne vous lirai pas, je vais simplement vous survoler ce texte parce que ça serait un peu long. Mais je vais vous donner quelques anecdotes qu'on y retrouve. C'est le texte signé par Jonathan Trudel. Et à chaque année, dans la petite ville de Des Moines, c'est en Iowa, il y a une foire agricole. Et l'un des kiosques les plus courus est tenu par une station de télé qui invite les gens à voter pour leur candidat favori au moyen d'un grain de maïs. En cette chaude journée du mois d'août, des dizaines de personnes font la file devant une table où sont alignés des pots en verre avec les noms et les photos de la vingtaine de candidats démocrates et républicains. Tracy Harris, travailleuse sociale dans la vingtaine qui se déplace en fauteuil roulant, dépose sans hésitation son grain de maïs dans le pot de Hillary Clinton. Mais elle semble décontenancée quand elle aperçoit, griffonnée à la main sur une affiche près du kiosque, les plus récents résultats de ce vote informel. Avec 26 % des voix, Donald Trump domine largement tous ses adversaires républicains, ainsi que Hillary Clinton, deuxième, qui en recueille 18 % seulement. « Les gens veulent vraiment Trump comme président ?» s'exclame Tracy Harris en se tournant vers un préposé responsable. « Êtes-vous sérieux ? C'est une farce ou quoi? De nombreux électeurs et médias ont réagi de la même façon quand ce singulier milliardaire s'est officiellement lancé dans la course en juin dernier. Le tabloïd new-yorkais The Daily News a même publié une photo truquée de Trump avec un nez rouge, coiffé d'un titre dévastateur. Un clown veut devenir président.
Ouais, ouais.
Alors, un animateur de radio de Des Moines, là, dans la ville de l'Iowa, a dit ceci, « Réveillez-moi quand ce rêve, ce cauchemar sera terminé. Mm-hmm. » Mais pour le moment, rien ne semble freiner l'ascension de Trump, richissime promoteur immobilier devenu une véritable star en animant depuis Manhattan sa propre émission de télé-réalité, The Apprentice, diffusée sur le réseau NBC. Finalement, dernière citation que je voudrais faire, dernière anecdote. Évidemment, Trump monte dans les sondages, mais il a fait des déclarations tellement
ridicules
au sujet des Hispanos.
Probablement
qu'il ne réussira jamais. Elle dit, cette dame-là qui avait été interviewée, c'est une madame de la Gardelle, a dit, si Trump aime son pays autant qu'il s'aime lui-même, je n'ai pas de doute qu'il va gagner. Ma seule inquiétude, c'est qu'il n'entre pas à la Maison-Blanche parce que sa tête va être trop enflée.
Exactement.
C'est dans l'actualité.
La question à se poser, si je peux me permettre, c'est comment se fait-il qu'aux États-Unis, autant de personnes se trompent?
Ouais.
Je sais, je pourrais en faire des meilleurs, mais bon.
C'est la grande Trumperie, exactement.
Ah, c'est ça. Franceline.
Oui, ben moi je vais vous parler d'un autre personnage, c'est le pape François qui achève sa visite aux États-Unis, qui a achevé hier sa visite aux États-Unis. Et c'est un article écrit par Jean-Louis de la Vessière et Anne Reynaud dans Le Devoir du lundi 28 septembre, donc d'aujourd'hui. Le pape François a conclu dimanche à Philadelphie une visite de 6 jours aux États-Unis en célébrant une messe géante devant des centaines de milliers de personnes après avoir rencontré dans la matinée des victimes de pédophilie et des détenus. Dans cette messe, le souverain pontife a repris avec force 2 thèmes centraux de sa tournée américaine qui étaient déjà présents dans ses discours au Congrès et aux Nations Unies, c'est-à-dire la défense de la famille et la protection de l'environnement. Il dit « On ne peut plus tolérer des divisions stériles. Le défi urgent de sauvegarde de notre maison inclut l'effort de réunir la famille humaine tout entière dans la recherche d'un développement intégral et durable. » Revenant sur le réchauffement climatique et la pollution à quelques mois de la conférence de Paris. Arrivé en papa mobile sous les vivas et les cris des centaines de milliers de personnes massées le long de la grande artère de la ville, le pape François a embrassé des enfants et béni des rubans de prière de 100 logis. La foule s'était réunie sur une dizaine de rangées le long du Benjamin Franklin Parkway. Beaucoup ont grimpé aux arbres pour avoir une meilleure vue. « Je n'ai jamais vu autant d'enthousiasme. Tout le monde est uni », s'est exclamé Michel Portillo, 54 ans, originaire du Guatemala, qui vit à Philadelphie depuis 22 ans et a apprécié ses propos fantastiques sur l'immigration. Nicole, 31 ans, n'est pas catholique, mais elle dit apprécier que le François soit plus ouvert d'esprit que ses prédécesseurs. Cette messe géante était le point d'orgue de 6 jours d'un voyage ayant inclus Washington et New York, durant lequel le pape a abordé des thèmes qui lui sont chers, comme la répartition des richesses, l'immigration et l'écologie. Dans la matinée, le pape avait rencontré 5 victimes de pédophiles. « Dieu pleure quand les enfants subissent des abus sexuels », a déclaré le pape François, promettant que les responsables répondront de leurs actes. Il a reçu pendant une demi-heure 3 femmes et 2 hommes victimes d'actes pédophiles commis non seulement par des prêtres, mais aussi par des éducateurs ou des membres de leur famille. Une manière pour lui de dénoncer un fléau universel qui ne touche pas seulement l'Église. Au Vatican, il avait déjà pris des mesures en juin, limogeant 2 évêques américains qui avaient fermé les yeux sur ses forfaits et en créant une instance judiciaire chargée de juger les évêques ayant couvert des crimes pédophiles. Le pape avait déjà évoqué ce scandale à deux reprises durant son voyage, de manière jugée trop discrète. Le pape, 78 ans, s'est ensuite rendu dans la maison d'arrêt de Curran From Old pour y rencontrer une centaine de détenus. Il a dénoncé des systèmes carcéraux qui ne cherchent pas à soigner les blessures et à procurer de nouvelles possibilités. Dans un pays au système carcéral critiqué par ses abus, le pape avait appelé jeudi les élus du Congrès à abolir la peine capitale. À une semaine du synode sur la famille au Vatican, il a aussi dénoncé une culture de supermarché qui se traduit par une désaffectation de la jeunesse vis-à-vis du mariage catholique. Tout au long de son voyage, les foules ont été au rendez-vous le long des avenues, curieuses et séduites par ce pape qui, au pays des grosses voitures, a voyagé en Fiat 500 ou en papamobile ouverte et s'arrêtait pour rencontrer, embrasser ou écouter. C'est un tel ange, on sent avec lui que tout va bien se passer, a dit Bernadette Silverstone, 75 ans, en signant un portrait du pape au coin d'une rue. D'un foyer de 100 logis à une école pour enfants d'immigrés, François a privilégié les rencontres directes avec les défavorisés, moment où il semblait être le plus à l'aise. Il n'a pas hésité à parler des sujets qui fâchent, mettant dès le premier jour de sa visite l'accent sur un sujet qui divise les Américains en pleine campagne électorale, oui. L'immigration. Le pape s'est défini comme le fils d'une famille d'immigrés. Il est italien en Argentine. Il s'est référé à Abraham Lincoln et Martin Luther King pour appeler à s'inspirer de leurs exemples et à retrouver les valeurs fondatrices de la nation américaine qui sont courage, brassage des cultures, liberté religieuse. Et enfin, dans un discours historique devant le Congrès, une première pour un pape, il a demandé aux élus d'assumer leurs responsabilités pour assurer un système économique plus équitable. Il a aussi plaidé devant l'ONU pour les exclus et la protection de la terre.
Espérons maintenant que ce soit entendu, quoi, que ce soit écouté.
Absolument.
Parce que je lisais aussi dans ce que c'est dans le Devoir, que, et ça m'a surprise quand même beaucoup, il n'y a que 28% de catholiques. Aux États-Unis.
Oui, c'est possible. Oui, c'est possible.
Je pensais qu'il y en aurait plus, quoi. 28%, ça me paraissait.
Mais je pense que la religion protestante est beaucoup plus importante,
c'est ça,
avec
hein.
toutes les.
Ouais. Et les évangélistes branches. Aussi,
oui, c'est ça,
exactement.
C'est ça, les branches de la religion protestante.
OK. Ouais. Ben, merci beaucoup, Francine. Si j'osais, hein, je dirais que le succès du pape est papable. Musique sautillante pour l'ami Serge qui nous arrive avec quoi?
Oui, avec un sujet très sérieux, pas drôle.
Oh non, alors un autre.
Des services aux affaires, pardon, ok. Alors, non, dysphasie, déficit d'attention ou trouble du spectre de l'autisme rime souvent avec difficulté scolaire.
Oui.
C'est un texte qui a été écrit par Nathalie Côté dans la revue Protégez-vous du mois de septembre. Alors, on est à jour.
Oui, absolument.
Alors, Marianne est une fillette brillante, mais les mots se mélangent dans son esprit et elle a du mal à s'exprimer. Elle est dysphasique et à 4 ans, elle parlait à peine. Inquiète, ses parents ont fait appel au CLSC pour voir une orthophoniste. Malchance, cette dernière a quitté et le dossier s'est retrouvé entre deux chaises. Marianne allait bientôt commencer l'école, alors j'ai consulté au privé, raconte sa mère, Marie-Josée Leclerc, qui a aussi un garçon aux prises avec un déficit d'attention avec hyperactivité.
Bon. Ça doit être facile la vie là-bas, dis donc. Je m'excuse, mais ça ne doit pas être évident. Hein.
Non, ce n'est pas évident.
Oh là là!
Déjà, avoir un enfant normal, ce n'est pas évident. Alors imaginez-vous quand il y a des... Oh là là! En maternelle et en première année, la petite a obtenu l'aide d'une orthophoniste de l'école, mais son évaluation officielle n'a eu lieu qu'au début de sa deuxième année. Nerveuse de ne pas être avec son orthophoniste habituel, Marianne a eu de mauvais résultats aux tests et a donc été envoyée au centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches, à Lévis. L'attente était de 12 à 18 mois, juste pour savoir si le CRDP allait l'accepter, raconte Marie-Josée Leclerc.
Oh là là.
Entre-temps, Marianne n'avait plus accès à l'orthophoniste de l'école, affectée seulement aux plus jeunes. Elle est donc retournée consulter au privé. Et quand la fillette a finalement vu les spécialistes du CRDP, ils ont conclu que sa dysphasie était de légère à modérée et ils ont refusé de l'aider.
Oh.
Le cas de Marianne n'est pas rare.
Non, non.
Mais non. De 2003 à 2013, le nombre d'élèves ayant des besoins particuliers est passé d'environ 138 000 à 189 000. Selon le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, la hausse serait due à l'avancement des connaissances médicales et à un meilleur dépistage. Les spécialistes consultés en cours de reportage partagent cet avis. Oui. Obtenir des services reste cependant ardu et les restrictions budgétaires imposées aux commissions scolaires n'aident en rien. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert 134 dossiers de plainte entre 2009 et 2013, et la plupart étaient liés à une mauvaise évaluation des besoins des enfants. Le protecteur du citoyen dénonce pour sa part le manque de continuité dans les services de santé et les difficultés d'accès aux professionnels pour les cas les plus lourds. Et dans un tel contexte, comment obtenir des services si votre jeune a des difficultés scolaires liées à un trouble d'apprentissage, à un trouble du déficit de l'attention ou à une déficience intellectuelle? Eh bien, c'est marqué ici, lisez nos conseils.
Oui, alors là, vous en avez quelques-uns, voilà, bon. Et les conseils, les
ben,
voilà.
Écoutez, il y a un plan d'intervention, il y a l'évaluation, il y a tous les services, on va en parler, il y a un programme qui est échelonné, et puis comment s'intégrer ou non. Alors, on parle un peu de tout ça. Moi, je n'aurai pas le temps de vous faire la nomenclature.
Non, je comprends. Mais par contre, est-ce qu'il y a un site où les gens peuvent se référer pour pouvoir... non, je ne sais pas. Non, mais pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là.
Oui, oui. Les systèmes de santé et d'éducation ont des missions complémentaires. À quoi vous attendre? Et puis... d'abord, il faut appeler l'école.
Oui, bien sûr. Ben
et
oui.
Puis à ce moment-là, on va vous donner exactement l'endroit où aller. Alors, où porter plainte? Vous êtes insatisfait des services offerts par les établissements de santé, comme les centres de réadaptation ou le CLSC de votre région. Et voici deux instances où vous plaindre.
OK, parfait.
Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement concerné. La procédure, les coordonnées se trouvent sur son site Internet. C'est le commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement. Et il y a le protecteur du citoyen lui-même. Après enquête, il peut transmettre ses recommandations à l'établissement concerné. Ça va?
Ça va.
Et puis, il y a aussi où porter plainte. Alors, on le dit à l'école, la commission scolaire, le protecteur de l'élève et la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Oui, et malheureusement, on s'aperçoit que ces gens-là sont des gens bien seuls. Hein. Même si on peut aller porter plainte, ils ont rarement gain de cause. Et non seulement ils vivent avec la difficulté d'élever parfois, justement, jusqu'à un, deux, trois enfants qui souffrent de, mais en plus,
et là,
ils sont dans le désert.
On se pose la question, pourquoi y en a-t-il autant maintenant?
Oui. On en a parlé, oui, d'ailleurs, ici, beaucoup à cette même émission, là, il y a quelques jours. On a eu deux ou trois papiers fort intéressants, des gens qui disaient que c'est pas vrai qu'il y en a autant, que ce sont finalement d'anciens cancres qu'on appelle maintenant des TDAH.
Oui, oui,
il y en a d'autres qui disent non, c'est prouvé. Il y a même un article la semaine dernière. Qui nous a lu ça à l'émission? Les voies de service,
sur une
parcelle du cerveau qui était directement atteinte.
Oui, c'est ça, mais aussi sur un aspect social.
C'est ça, exactement. Mais on dit aussi qu'il y a vraiment une partie du cerveau qui est directement atteinte et qui est effectivement, les médicaments, exactement comme pour une dépression, vont aller jouer, ce qui est bien la preuve pour certains qu'il s'agit d'une maladie et non d'une chose complètement qu'il faut prendre à la légère. Merci beaucoup, Serge. On va peut-être avoir quelques brèves. Tiens, moi, j'en ai une brève pour vous. Vif intérêt pour les vélos pupitres. Ça a été conçu par un Québécois. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Les vélos pupitres. Pédaler en classe peut aider les jeunes étudiants hyperactifs à demeurer concentrés.
Alors, c'est pour l'électricité en même temps?
Non, quand même pas. Mais c'est... Alors, plusieurs écoles québécoises se tournent vers les vélos pupitres afin d'aider des élèves hyperactifs à rester concentrés. Et c'est une initiative qui suscite un engouement dans le réseau scolaire. Moi, la question que je me pose, c'est que ça fait du bruit, ces vélos-là. Moi, je veux dire, je sais pas si vous avez déjà pédalé sur un truc, mais ça fait un peu de bruit. Alors, s'il y en a 15 sur les 30 qui pédalent, ça va pédaler dans la choucroute et pas à peu près.
Il faudrait penser à charger des batteries, hein.
Oui, ça existe aussi, oui.
Ça existe aussi?
Oui, dans les aéroports notamment et dans les gares, beaucoup en France.
Ah, ils pédalent?
Ben, on pédale pour recharger son appareil. Ah, ce qui va nous amener d'ailleurs bientôt sur le sujet sur les iPhones, je pense, en seconde partie.
Chérie,
oui.
Au masculin ou au féminin.
C'est à moi que vous parlez?
Oui, tu me passes le poivre.
Oui.
Oui. Une entreprise australienne vient de mettre au point une poivrière munie d'un émetteur d'ondes électromagnétiques
oui.
qui rend inopérants les appareils électroniques pour une période de 30 minutes. Objectif? Partager les repas en famille sans être distrait par les tablettes et les téléphones cellulaires.
Et tout cela passe par une poivrière.
Poivrière, oui, oui. On voit là, qu'elle résonne ici. Là. Ah ben... Il a bien résonné, là.
Ah ben, en effet. Voilà, merci beaucoup. Je vous garde parce que je m'amuse beaucoup avec vous, puis j'apprends aussi beaucoup. Alors, je vous garde pour la prochaine demi-heure. Franceline, Roger et Serge. Avec Franceline, psychothérapeute. Hein, on va y aller. Oui, oui, c'est ça. On discute là quand on n'est pas en onde. Et là, on se disait, allez, on y va avec la psychothérapie oui. parce que tout à l'heure, il sera question à nouveau d'autisme et d'iPhone. C'est ce que j'avais pas compris. Ça. C'était le lien. Alors, on va laisser passer un petit peu de temps et on va y aller avec Franceline.
Oui, alors
et
qu'on
la
se le dise, il n'est pas nécessaire d'être au bord du gouffre pour entreprendre une thérapie. Hein. Le stress
et vous me
dont
regardez.
Vous parliez. Ah, oui. Vous en avez parlé beaucoup la semaine dernière,
d'accord.
Serge.
Ah,
je suis témoin.
Et puis, en plus, on n'est jamais trop vieux pour se faire du bien. Tiens, alors, je vais regarder ça. Roger cette
ben,
fois.
Ah, ben, alors.
Bon, enfin bon, se faire voilà. du bien avec une psychothérapie. Moi, je connais d'autres moyens quand même que la psychothérapie.
Oui, c'en est un quand même.
Une bonne bouteille.
Alors, le texte s'intitule « Il n'y a pas d'âge pour une psychothérapie ». Physiquement, pas de problème. Psychologiquement, ça va coussi coussa. L'idée de consulter un psychologue vous a traversé l'esprit, mais toutes les raisons sont bonnes pour vous en dissuader. Je suis trop vieux pour ça. Qu'est-ce que les autres vont dire ouais. À mon âge, il est trop tard pour changer. Déterrer les choses du passé, ça ne me tente pas. On va me juger. Eh bien, vous avez tout faux. Au contraire, toutes les raisons sont bonnes pour que vous vous lanciez. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre une psychothérapie, assure la psychologue Nathalie Aubut. Car il nous arrive à tous de vivre des difficultés, des angoisses et des remises en question qui n'ont rien à voir avec l'âge. Sans compter que plus on vieillit, plus on traverse des moments charnières et des bouleversements pas toujours faciles à vivre. Que ce soit en raison du départ des enfants de la maison, de la retraite, des problèmes de santé plus fréquents ou des deuils difficiles à gérer, seuls. Et se confier à ses proches ne suffit pas toujours.
Serge, excusez-moi, ça semble vous interpeller beaucoup, ce sujet. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, à un moment donné, d'aller suivre une psychothérapie?
La folie, vous dites?
Non, la folie, non. La folie, oui, dans un genre, mais pas dans... Non, mais ça vous a traversé l'esprit, à un moment donné? Bon, parce que 92 ans, quand même, à un moment donné, ce serait peut-être temps que vous commenciez.
Mon meilleur ami est psychologue.
C'est vrai?
Oui, il ne se gêne pas.
Alors, il vous donne
oui,
des. Il
mon
vous donne
meilleur
des...
ami psychologue, il ne se gêne pas
d'accord,
avec moi.
D'accord. Ça veut dire qu'autour d'une bonne table, tout d'un coup, vous lui parlez.
J'en ai appris des choses.
Ah oui? Sur vous-même?
Oui, sur les autres.
Et voilà, oui, parce que plus on vieillit, plus on réalise que le temps file et plus on sent l'urgence de régler certaines choses pour se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec les autres et pouvoir enfin profiter pleinement de la vie. En vieillissant, on va davantage à l'essentiel, à ce qui est important pour nous. Même en fin de vie, il est peut-être bon de consulter pour traverser cette étape difficile. La peur de la mort génère beaucoup d'angoisse chez la plupart des gens, affirme Nathalie Aubut.
C'est vrai,
avoir
ça.
Quelqu'un à qui en parler ouvertement aide à apprivoiser cette étape, à gérer ses émotions, à donner du sens à sa vie. Être en paix avec soi-même et les autres permet d'affronter l'avenir plus sereinement.
Roger, avez-vous peur de la mort?
J'y pense jamais.
C'est vrai, jamais? Non, c'est formidable. Franceline, vous?
Ben, pas vraiment, moi j'y pense. Et, par exemple, je suis allée voir hier le film Paul à Québec et je pense que c'est un film à voir justement par rapport à la mort.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, Serge?
J'ai peur de tout.
Oui, bien. Oui.
Ah, c'est effrayant.
Vous avez peur de tout.
J'ai mille et une peur. Hein. Quand je me mets à y penser, c'est terrible. Hein.
Ah ben, c'est
mais il ne faut pas y penser.
Non, c'est ça. Moi, je sais pas. En vieillissant, j'ai moins peur de la mort comme de la façon dont ça va se faire. Mais la mort en tant que telle, de toute façon, on dirait que plus je vieillis, puis finalement, bon, regarde, de toute façon, je vais y passer comme les autres. Mm-hmm. Mais c'est la manière, quoi, comme disait Brel. Allez-y, François.
Voilà. Alors, quelle que soit la raison, la décision de suivre une psychothérapie devrait être sérieusement envisagée si les difficultés vous paraissent insurmontables, si vous êtes mal dans votre peau, si vous souffrez d'anxiété et si vos malaises persistent et finissent par peser lourd sur vos épaules ou ces problèmes entraînent des répercussions sur votre santé physique ou psychologique. Alors, à une époque pas si lointaine, il était plutôt mal vu de consulter un psychologue ou une psychothérapeute. On croyait à tort que la psychothérapie était réservée aux individus atteints de graves problèmes de santé mentale, la folie dont parlait Serge tout à l'heure. Heureusement, les choses ont changé. Mais certaines personnes entretiennent encore des préjugés tenaces. Alors, je vais évoquer quelques préjugés. Je suis trop vieux pour changer. Il n'y a pas d'âge pour chercher à s'améliorer et s'offrir une meilleure qualité de vie. Il suffit simplement d'être motivé. Pour bien vieillir, il faut d'abord régler les choses avec soi-même, puis apprendre à pardonner, dit Nathalie Aubut. Plus on vieillit, plus ça devient important. Un autre préjugé, c'est « je parle peu ». Vous êtes plutôt du type silencieux, vous avez du mal à confier vos émotions, alors vous vous demandez bien ce que vous irez faire dans le bureau d'un psy. Vous redoutez évidemment les fameux silences, pourtant il n'y a pas lieu de vous en faire, le psychologue s'adapte aux différentes personnalités. Contrairement à ce que l'on croit, il dispose de plus d'une façon d'établir le contact. Mm-hmm. Autre préjugé.
Non, mais c'est vrai. Évidemment, là, ce qu'on voit dans les films ou autres, ou dans les livres, c'est ça. Le mec silencieux qui fait Et là, il se passe une heure, et voilà, monsieur, vous me devez 200 piastres. Mais c'est pas vrai que ça se passe comme... Bon, puis si ça se passe comme ça, barrez-vous, changez, vite fait, changez, quoi.
C'est un vrai taiseux.
Autre préjugé, il va me juger. La peur d'être jugé vous empêche de faire le saut. Retenez que le psychologue n'est pas là pour vous juger, mais pour vous aider à comprendre le malaise qui vous habite, à dédramatiser la situation et à trouver avec vous des solutions. Dites-vous qu'il en a bien vu d'autres. Rien n'est tabou en psychothérapie. Autre, il va raconter mon histoire à d'autres personnes. Ah non, le psychologue, membre de l'Ordre des psychologues du Québec, sont tenus de respecter un code de déontologie rigoureux.
Exactement, bien sûr.
Je vais être obligé de révéler des secrets. Mais non, vous êtes complètement libre de transmettre des renseignements aux thérapeutes. Et vous n'avez aucune obligation de répondre à ces questions. Toutefois, plus vous vous ouvrirez durant la thérapie, plus vous avancerez dans votre démarche. Mon problème ne vaut pas la peine que je consulte. Il n'y a pas de petits ou de gros cas, plutôt des situations qui méritent d'être regardées de près si elles sont récurrentes et nuisent à la qualité de vie ou encore si elles font souffrir. Qu'est-ce que les autres vont penser? Vous craignez les jugements, les critiques et les qu'en dira-t-on dans votre entourage? Si cela vous angoisse, ne leur en parlez pas. Ça coûte cher. Les tarifs d'un psychologue ou d'un psychothérapeute de secteur privé varient aujourd'hui généralement de 80$ à 120$ l'heure. Ces frais sont en partie remboursables par les assurances collectives, mais si votre budget est serré, vous pouvez toujours tenter de négocier un arrangement. Attention, faites affaire avec un professionnel membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Si votre budget ne vous permet pas d'aller en cabinet privé, vous pouvez bénéficier gratuitement des services d'un professionnel en milieu hospitalier ou en CLSC. Seul hic, il se peut que l'on vous place sur une liste d'attente très longue. Par ailleurs, certains employeurs disposent d'un programme d'aide aux employés qui offre la possibilité de consulter un psychologue ou un psychothérapeute gratuitement pour un nombre de séances déterminées. Informez-vous auprès du responsable des ressources humaines de votre entreprise. Et enfin, autre préjugé, j'appréhende les rencontres. Normal, si vous ne savez pas à quoi vous attendre. La première séance sert principalement à établir le contact, explique Nathalie Aubut. C'est l'occasion pour le client d'évaluer s'il a des atomes crochus avec le psychologue. En fait, la relation de confiance est primordiale pour que la démarche soit bénéfique. On considère que le succès d'une psychothérapie repose à près de 60% sur la qualité de la relation. Voilà, je voulais dire aussi certaines techniques comme des exercices de relaxation, de respiration et de visualisation peuvent être utilisées au cours des séances et vous pouvez les utiliser aussi après. En somme, la thérapie vise à faire tomber les blocages, à déterminer les forces et les zones de vulnérabilité, à affronter les difficultés plutôt qu'à les éviter et à développer des outils pour faciliter la prise de décision et améliorer la qualité de la vie, rappelle Nathalie Aubut. Autrement dit, la thérapie sera faite sur mesure pour vous. Alors voilà, c'était écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de septembre 2015.
D'accord.
Voilà.
Et puis c'est normal là, que vous redoutiez un petit peu ces séances-là. Il arrive qu'on déterre des choses qu'on n'a pas trop envie de déterrer. Puis je pense que plus on est âgé, puis plus ces choses-là croupissent en dessous, je ne sais combien de couches. Moi, je pense toujours à l'oignon, là, dans ces cas-là. Et puis, mais... Puis en plus, quand vous avez commencé, on sort, on... Enfin bon, bref. Alors,
On n'entrera pas dans le détail.
Merci beaucoup, fort intéressant, Franceline. Oui. Merci infiniment. Et nous allons rejoindre mon ami Serge Hemelin en direct du Chic Studio de Canal M et de l'émission Les Voix des Services.
Ah, quel bout d'entier vous avez. Alors, cet enjeu électoral sous la loupe, c'est dans le domaine des dossiers sociaux. C'est dans la revue Virage.
OK.
On parle des gens âgés.
Oui.
Ça a l'air qu'il y en a quelques-uns dans le monde entier.
Oui. Puis ça va pas aller en s'arrangeant.
Justement, on va en avoir de plus en plus.
Ben, c'est ça.
On sera pas tout seul à un moment donné, là, comme des grands garçons. Alors, cet enjeu électoral, sous la loupe, on est en période électorale, c'est merveilleux. Alors, au moment d'écrire ces lignes, les différents partis politiques fédéraux n'ont pas encore dévoilé leur plateforme électorale. En vue du scrutin d'octobre prochain, ça s'en vient, dont les résultats s'annoncent serrés. Toutefois, le réseau FADOC, Fédération d'âge d'or du Québec, tient déjà à vous faire connaître sa plateforme de revendication auprès du gouvernement fédéral.
Et c'est important parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup.
Le réseau FADOC, je reviens à la page d'avant, le réseau FADOC refuse l'étiquette de « lobby ». Parce qu'on en est rendu là. Mieux encadrer les lobbyistes est essentiel, mais ce processus ne doit pas mener à la confusion des genres. C'est pourquoi le réseau FADOC milite ardemment pour que la loi à être adoptée par le gouvernement provincial n'inclut pas les organismes d'action communautaire, car le projet de loi actuel équivaudrait à les faire taire. Un lobbyiste, vous savez c'est quoi un lobby? C'est quand on entre dans un hôtel. Pas ça. Un lobby est un groupe de pression qui fait la promotion d'un dossier auprès des instances publiques afin de les influencer. On pense au lobby du tabac, des médicaments, des pétrolières, etc., etc. Toutefois, il existe plusieurs différences majeures entre ces puissants groupes d'intérêt et des organismes communautaires tels que le réseau FADOC. Alors, ils veulent inclure tout dans le même...
Et nous, pendant ce temps-là, on en arrache.
Ben oui, alors.
Voilà.
Donc, pas de lobby pour la FADOC, là. Bon. Alors, le réseau FADOC tient à vous faire connaître sa plateforme de revendication auprès du gouvernement fédéral. La première, c'est la sécurité financière. Ça, je pense que ça nous intéresse.
Ben oui. On a travaillé toute notre vie, puis tout le monde s'en fout, tu sais. Ouais. Puis là, on coupe, tu sais. C'est sûr.
La santé, ensuite. Une autre revendication. Le supplément de revenu garanti. C'est beau. Le fonds de pension.
Le fonds de pension.
Le droit international. Stratégie nationale du vieillissement.
Le droit international.
Le droit international, qu'est-ce que ça vient faire?
Et l'obtention du vote du gouvernement fédéral en faveur de l'élaboration d'une convention internationale du droit des aînés.
D'accord.
Cette convention pourrait donner aux organismes voués aux aînés, dont le réseau FADOC, de nouveaux outils pour défendre le droit des aînés. Et le gouvernement actuel s'oppose à l'élaboration de la convention par le biais des instances de l'ONU. On aurait pu, hein? Ensuite, la stratégie nationale du vieillissement... La mise sur pied d'une stratégie nationale du vieillissement, c'est quelque chose. Et ensuite, 7, les travailleurs d'expérience. La mise sur pied des mesures nécessaires au maintien en emploi des personnes de 50 ans et plus qui désirent continuer à travailler.
Mais oui.
Favoriser l'accessibilité à la formation continue fait partie des mesures visant à faciliter le maintien en emploi. Alors voilà. Donc, la sécurité financière, une revendication. Une augmentation du régime de pension du Canada... Vous savez que le gouvernement canadien donne beaucoup, beaucoup d'argent un peu partout, hein? Mais aux gens qui ont travaillé toute leur vie.
Non, c'est ça, exactement.
Et ils n'ont presque pas le droit, alors qu'on achète ci, on achète ça, et patati. Afin qu'ils couvrent 40 % du revenu des travailleurs canadiens et une augmentation du salaire admissible à 70 000. En ce moment, 25 % d'un salaire de 53 600 est admissible. Et cette révision du système de pension canadien est nécessaire compte tenu du vieillissement de la population. Et face à l'inaction du fédéral, l'Ontario est allé de l'avant en haussant le taux à 40 % du revenu des travailleurs de cette province.
Vous avez beaucoup entendu parler, vous, depuis que les, je sais pas, 24 semaines de la campagne électorale, vous avez beaucoup entendu parler du droit des aînés, puis des personnes âgées? Puis
ben
des...
Pas du tout.
Non. Et vous avez beaucoup entendu parler du NICAB?
Oui.
Oui. OK. Oui. Allez, on continue.
On a entendu parler des plans, des projets.
C'est lamentable.
Donc, il y a des revendications dans la sécurité financière. Ensuite, dans le domaine de la santé, c'est le maintien et la bonification des transferts fédéraux aux provinces dans le domaine de la santé. Ensuite de ça, le supplément de revenus garantis. Ça, j'aime ça. Revendication. L'inscription automatique au SRG. Vous savez qu'il y en a qui ne savent pas, là.
Oui, c'est vrai, ça. Beaucoup.
L'inscription automatique au SRG de tous les aînés qui y ont droit.
Alors, qu'est-ce que c'est? Voudriez-vous rappeler ce que c'est pour les gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est?
Le supplément de revenus garanti.
Oui, c'est ça.
Alors, si vous n'avez pas assez de revenus, 8 000 $
par année, ce n'est pas beaucoup.
OK. Là, vous y avez droit.
Un supplément.
Vous avez droit, si vous êtes une personne seule, jusqu'à 16 000 $ de revenus. Vous avez le droit au supplément de revenus garanti. Entre 16 000 et, si on baisse, 15 000, 14 000. Alors, mettons 16 000 si vous avez droit à zéro, mettons. Et si vous descendez jusqu'à 8 000, là, vous avez le droit au plein montant, à peu près 600 $. Donc, vous recevez une pension de 560-quelques $ pour les personnes âgées.
De base. Ça.
Et vous avez le droit à un maximum d'autour de 600 à 700 $ en plus.
En plus.
Oui, oui. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque mois, entre dans votre compte de banque...
Ben oui, ben c'est ça. 560-quelques
$, plus 600 de plus en veillant super.
Mais c'est vrai qu'il faut le dire, ça, parce que je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ne savent pas.
C'est sûr, ça.
Alors, écoutez, là, l'inscription automatique au SRG de tous les aînés qui y ont droit, le paiement rétroactif de 2 ans à toute personne ayant droit au SRG, mais ne l'ayant pas reçu, faute d'inscription, et l'augmentation du montant du SRG de 110 $ par mois afin d'atteindre le seuil de faible revenu canadien. Le réseau FADOC défend cette revendication depuis 2000 afin de protéger les aînés les plus démunis, notamment les 40 000 Québécois qui ne reçoivent pas le SRG, bien qu'ils y soient admissibles.
Et on s'inscrit où, Roger? Vous avez l'air de bien connaître ça. Aucune idée, d'accord. Où est-ce qu'on s'inscrit pour le SRG?
Ben, vous vous inscrivez. Si vous avez un Internet...
Oui,
là,
si vous faites SRG...
SRG, là, c'est facile.
Mais il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont peut-être pas,
vous téléphonez au Canada.
Non, mais quoi? Là, c'est quoi? À l'agence du revenu?
À l'impôt sur le revenu. Et là, ils vont vous transférer. Composez le 1.
Non.
Mais ça ne sera pas long. 2 heures d'attente, mais ça se fait bien. Si vous êtes aîné et que vous vous bercez sur le balcon, vous avez le temps.
Mais 2 heures d'attente pour faire 8 000 $ de plus par année, ben pourquoi pas?
Ça vaut la peine, c'est de l'argent. Hein?
Je vous laisse continuer, mon petit Serge.
Parce que moi, je ne veux pas quand même dramatiser tout ça.
Mais moi non plus. Mais enfin, il faut le dire, quoi. C'est sympa, quoi.
Hormis l'obtention d'un gain minime en 2011, le gouvernement est demeuré à peu près immobile dans le dossier des SRG. Puis le fonds de pension, la revendication, c'est la désignation des fonds de pension comme créance prioritaire en cas de faillite d'une entreprise. Ça, je savais pas. En cas de faillite, la loi actuelle prive les travailleurs des fonds qu'ils ont amassés pendant leur vie active. Puis voilà, c'est
débrouillez-vous avec ça.
Écoutez, est-ce que vous en savez assez?
Non, oui, je pense. Je pense, non, mais c'est intéressant.
C'est un article qu'on peut retrouver dans la revue Virage pour les membres de la FADOC et les gens qui prennent de l'âge.
Parce que ça, Virage, c'est le journal de la FADOC,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, oui, oui.
Et c'est il paraît quoi, tous les mois, tous les deux mois?
Est-ce qu'il paraît tous les mois? Automne, donc c'est trimestriel.
Trimestriel?
Oui, oui, oui.
D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir épluché cette revue pour nous. J'imagine d'ailleurs que vous y reviendrez à un moment donné.
Éventuellement.
Merci Serge. Alors, Roger, on va finir cette heure avec vous.
Oui, un texte qui m'a beaucoup étonné. Évidemment, je suis un peu dinosaure à ce niveau-là, là, chez l'électronique. Mais
nous
peut-être que
deux.
Les gens sont tous au courant de ça, mais j'en revenais pas. Le texte s'appelle « À Siri, S-I-R-I, bien affectueusement » par Judith Newman. C'est dans la sélection du Reader's Digest. Puis elle dit, Madame Newman... « Quelle mauvaise mère je fais, me dis-je en voyant mon fils de 13 ans en grande conversation avec Siri. Gus, que je vais rebaptiser parce que je n'aime pas tellement le prénom Auguste, ou Gustave, est autiste. Et Siri, l'assistant personnel du iPhone d'Apple, est devenu aujourd'hui son plus proche confident. Obsédé par les phénomènes atmosphériques, Gustave vient de passer une heure à étudier les différences entre les orages isolés et les averses dispersées. » Une heure pendant laquelle, Dieu merci, je n'ai pas eu à en parler moi-même. Au bout de quelque temps, j'ai surpris ce dialogue. Gustave, tu demandes toujours si tu peux m'aider. Je peux faire quelque chose pour toi. Siri, merci, mais j'ai peu de besoins. Gustave, parfait, alors bonne nuit. Siri, mais il n'est que 17h06. Gustave, oh pardon, au revoir. Siri répond, à plus tard. C'est là une déclaration d'amour à un appareil. Dans ce monde où il est fréquent d'affirmer que la technologie nous isole, il serait temps d'examiner la question sous un autre angle. Tout a commencé simplement, je lisais en ligne un article intitulé « 21 fonctions de l'iPhone que vous ignorez ». L'une d'elles suggérait de demander à Siri d'indiquer les avions qui nous survolent. Les autistes, évidemment, se concentrent sur certains sujets qui les passionnent.
Oui.
L'assistant énumérerait tous les vols en circulation dans le secteur, numéro, altitude et direction. J'ai murmuré, pourquoi aurait-on besoin de savoir quels appareils traversent le ciel maintenant? Sans relever la tête, Gustave a répondu, pour savoir à qui tu fais coucou, maman. Longtemps, Gustave n'avait pas prêté attention à Siri, mais depuis qu'il avait compris que l'assistant ne se bornait pas à lui fournir des renseignements sur ses lubies, c'est-à-dire les trains, les avions, les autobus, les ascenseurs, et bien sûr tout ce qui a trait au climat, et qu'il pouvait discuter pratiquement sans fin de ces sujets avec lui, il ne pouvait plus s'en passer. J'en suis très reconnaissante. Maintenant, quand je sens que je vais exploser, si je dois tenir une même discussion sur les probabilités de tornades à Kansas City, je peux lui répondre joyeusement, « Pourquoi ne demanderais-tu pas à Siri? » Mon fils a compris que l'appareil n'est pas un être humain. Mais comme plusieurs autistes que je connais, il a l'impression que les objets, bien que privés d'âme, méritent quand même notre respect. Il avait 8 ans lorsque je m'en suis rendu compte. Pour son anniversaire, je lui avais offert un iPod. Il s'en servait à la maison et ne l'emportait jamais avec lui, sauf quand nous allions à l'Apple Store. Un jour, je lui ai demandé pourquoi. Ben, il dit comme ça, il peut revoir ses amis. Avec sa voix apaisante, son humour moqueur et son aptitude à soutenir des heures, une conversation sur l'une ou l'autre des obsessions de Gustave, Siri retient bien davantage son attention et son affection qu'un iPod. On déplore parfois en ligne que le système de reconnaissance vocale de Siri ne soit pas aussi fin et précis que celui d'Android. Pour certains, il s'agit là d'une aubaine, non d'un problème. Gustave s'exprime comme s'il avait des billes dans la bouche. Mais s'il veut que Siri lui donne de bonnes réponses, il doit prononcer distinctement ses questions. Siri est également providentielle pour ceux qui saisissent mal les codes sociaux. Si ses réponses ne sont pas toujours prévisibles, elles demeurent courtoises, même lorsque Gustave est impoli. Je les ai surpris un jour qu'il parlait de musique. Siri proposait différents morceaux. « Je déteste ce genre de musique », répliqua Gustave abruptement. Ce à quoi l'appareil répondit, « Tu as le droit de ne pas l'aimer ». Cette politesse rappelle à Gustave tout ce qu'il doit à son assistant. « Merci quand même de me l'avoir suggéré », se reprit-il. « Tu n'as pas à me remercier, mais oui », conclut Gustave avec emphase, « c'est nécessaire ». À force de converser avec l'assistant vocal, Gustave apprend aussi à mieux communiquer avec les êtres humains. Hier, nous avons eu le plus long dialogue jamais établi entre nous. Certes, c'était à propos de différentes espèces de tortues. Gustave me demandait si je préférais les trachymides à tempes rouges aux tortues à dos diamanté. J'aurais volontiers abordé d'autres sujets, mais il y avait un échange de réponses et l'ensemble était cohérent. Je peux vous assurer que cela n'a pas toujours été le cas au cours des 13 ans de vie de mon fils adoré. Les développements qui créent les assistants savent qu'ils servent aux personnes avec des problèmes d'élocution et de communication. Certains essaient de mettre au point des assistants encore plus utiles. D'après les techniciens de SRI International, la prochaine génération d'assistants ne se limitera pas à trouver des renseignements. Elle engagera aussi des conversations beaucoup plus détaillées sur des sujets qui intéressent les utilisateurs. M. Mark de la société SRI estime que certains assistants virtuels seront munis de fonctions visuelles. L'appareil suivra le mouvement des yeux d'un autiste, par exemple, et lui apprendra à regarder ses interlocuteurs en face.
C'est hallucinant.
C'est une
hein?
formidable caractéristique de cette technologie que d'aider à améliorer ses comportements. Ce genre d'apprentissage exige des exercices répétitifs. Or, nous sommes impatients. Les machines, elles, sont infiniment patientes.
C'est vrai. Hein?
La principale inquiétude des parents d'un enfant autiste, c'est de savoir s'il saura trouver l'amour ou du moins se lier d'amitié. Avec le temps, j'apprends que ce qui rend mon fils heureux n'est pas forcément ce qui me remplit de bonheur. Aujourd'hui, à l'âge qui est le sien, il y a 13 ans, durant cette période où même les adolescents ordinaires trouvent les relations humaines quelque peu angoissantes, Siri procure de la joie à Gustave. Hier soir, avant de se coucher, il a tenu les propos suivants sur un ton naturel. « Siri, vas-tu m'épouser? » Siri lui répond « Je ne suis pas de celle qu'on épouse. Pas maintenant, je suis un enfant, mais je veux dire plus tard, quand je serai grand. Mon contrat d'utilisateur ne couvre pas le mariage.
Oh. »
Alors Gustave lui répond « Ah, c'est très bien.
Oh. »
Gustave ne semblait pas trop déçu. Il était satisfait d'apprendre cela, et moi donc. C'était bien la première fois que mon fils parlait de mariage. Avant de s'endormir, il a ajouté « Bonne nuit, Siri, tu dormiras bien? Je n'ai pas besoin de dormir beaucoup, mais c'est gentil de me le demander. » Très gentil, hein? C'est
mais
bien
c'est... Non, mais c'est vrai. Mais là je regardais pendant que vous vous exprimiez, je pitonnais sur mon iPad. Ça, c'est vraiment juste sur les iPhones, hein, Siri, je pense. Parce que la joie sur iPad, je ne l'ai pas. Mais par contre, c'est une application que je pourrais
iPhone
rentrer.
D'Apple, qu'on dit.
Oui. iPhone, oui.
L'assistant personnel.
C'est ça.
Ouais.
Mais donc, ça n'existe pas sur iPad, mais je pourrais le... Alors, donc, pour ceux qui se demandent encore, c'est ça, c'est vraiment une application. On peut demander absolument ce qu'on veut. Et Siri,
oui.
Bon, par exemple, pour les avions,
ouais,
si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a décollé à 15h15, si vous voulez vérifier, à 15h25, Siri, dis-moi s'il y a le Air Canada, machin, qui passe.
Ouais,
non, mais c'est complètement dément, ça.
Oh,
moi je trouve ça, effectivement.
C'est comme merveilleux. Une mère, c'est merveille de voir son fils autiste apprendre avec un assistant vocal. C'est
ben
dans
oui,
le Reader's Digest du mois de septembre.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Roger, mais merci aussi beaucoup à Franceline et merci à Serge. Voyez-vous, c'est pour ça que j'aime m'entourer de ces voix de service merveilleuses qui cherchent et qui trouvent des sujets toujours fort intéressants. Merci infiniment à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Alors, bonne semaine et bonne lecture. Merci.
Au revoir.
Bye.
Au revoir.